Merci beaucoup, Michel, pour cette incursion passionnante dans l'odyssée borromène lacanienne. Il y aura beaucoup, beaucoup de choses à questionner là. Je passe tout de suite la parole à notre collègue Muriel Mosconi, psychanalyste à Marseille et à Bandol, et qui parlera sous le titre Méditation sur le nœud à quatre.
C'est méditation sur les nœuds à quatre.
Les nœuds à quatre, oui, en effet, oui.
Alors, donc en 1972, au moment d'encore, Lacan séjourne à Rome où il rend visite au peintre François Rouan dans son atelier de la Villa Médicis. Elle est alors dirigée par Balthus et François Rouan y est en résidence. Il y est en train de peindre la série Les Portes de Rome et Lacan reste de longs moments silencieux à le regarder travailler. Il s'agit de la rencontre de deux chercheurs. En effet, contrairement à l'adage picassien « je ne cherche pas, je trouve » que Lacan avait fait sien, pour son travail sur les nœuds, commencé en 1972 lors du séminaire Oupir, avec la phrase « Je te demande de refuser ce que je t'offre parce que ce n'est pas ça », Lacan, donc dans RSI, considère qu'il cherche et qu'il lui arrive d'errer, qu'il cherche dans les cercles, dans l'étymologie, donc c'est l'étymologie de chercher, les cercles, qu'il cherche mais qu'il trouve, et qu'il trouve le trou de souris, le trou de pierre à souris. En 1965, autre chercheur, François Rouan, lui peint sur des bandes qu'il assemble ensuite par des dessus-dessous, comme une étoffe tissée avec la trame horizontale et la chaîne verticale. Il appelle ces tableaux des tableaux tressés. En 1978, François Rouan expose au musée Cantini de Marseille et une lettre manuscrite de Lacan est mise en postface du catalogue. C'est Rouan qui précise que c'est la postface et non la préface pour ce qui est du musée Cantini. Lacan écrit-il, la livre cette lettre à la méditation du public de l'exposition, d'où mon titre sur la méditation sur les nœuds à quatre. Remarquons que la méditation pour aborder ces nœuds ne suffit pas. Il y faut aussi l'acte de nouer, dénouer, triturer les ronds de ficelle, selon d'ailleurs l'étymologie de méditer, med, med, prendre des mesures, et meditari, étudier, s'exercer, d'où vient la médecine. Donc il y a aussi acte finalement dans l'étymologie de méditer. Lacan y conseille dans cette lettre, Lacan y conseille à François Rouan qui peint sur des bandes, donc de peindre sur des tresses. Ce qui d'ailleurs vexe Rouan, parce qu'il considère qu'il fait des tableaux tressés. Donc c'est tout un débat là entre Freud et Lacan. Mais ceci étant dit, Lacan repère aussi la structure de la tresse incluse dans le tableau, en reliant par les diagonales les trous, les vosgires du tableau, si on peut voir le petit schéma. On le voit le schéma là? Ah, voilà. Voilà, vous avez le schéma en bas, c'est le tableau de François Rouan avec son système de tissage, disons, et des trous. Et Lacan, dans un second, Lacan fait donc des diagonales qui incluent les trous. Et dans un second schéma, là, dans la figure 2, juste après, donc il repère avec ses diagonales, il les constitue en tresses, en fait. Donc, d'une certaine manière, il donne aussi le point au Rouan en considérant que dans son tableau de tissage, il y a du tressage sous-entendu. Voilà. Donc, puis Lacan développe la question de la tresse, donc notamment à quatre, avec son bouclage borroméen. À partir d'un empilement de trois ronds notés, là il faut montrer la suite des schémas, notés 1 pour celui du haut, 2 pour l'intermédiaire et 3 pour celui du dessous. Et partant du principe que le quatrième passe sous le 3, c'est-à-dire le quatrième passe en dessous, le plus bas, et sur le 1, c'est-à-dire le plus haut, Et sur le 2, l'intermédiaire, Lacan obtient 4 mises à plat de ses nœuds borroméens à 4. C'est ce qu'on voit sur le schéma. Les deux premières figures, figure 10 et figure 11, à partir de la mise à plat d'un empilement à 3 lévogyres-like, c'est-à-dire avec 1, 2, 3 posés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ces figures donc sont construites dans la mise à plat avec le 4 longeant respectivement, le 1, celui d'en haut, ou le 2, l'intermédiaire. Et ces deux mises à plat donnent en fait le même nœud. C'est la figure du même nœud, où 1 plus 4 et 2 plus 3 font deux cercles, deux faux trous noués. Si on peut revenir sur moi, je vous montre ce que ça donne dans le... J'aimerais montrer des nœuds dans... Où il est ? Voilà, celui-là. Voilà, si le rouge, c'est celui d'en haut, le bleu, celui du milieu, et le vert, celui d'en bas, on obtient là 1 plus... attendez. 1 plus 4 et 3 plus 2. Et ça fait ça. Ça glisse l'un sur l'autre, voilà. Bon, et ça, tous les nœuds à 4 sont réductibles à cette structure de deux en cercle, nouées à deux autres en cercle autour d'un faux trou, chaque couple constituant un faux trou. Les deux dernières figures, donc on va le voir, figures 14 et 16, à partir de la mise à plat d'un empilement à 3 dextrogyres-like, c'est-à-dire avec 1, 2, 3 posés dans le sens des aiguilles d'une montre, construite avec le 4 longeant respectivement le 3 ou le 2, donne dans l'espace le même 2 nœuds, 1 plus 2 et 3 plus, ou 1 plus 2 et 3 plus 4 font cercle, deux faux trous donc noués, 1 plus 2 et 3 plus 4. Voilà. Et c'est ce qu'on voit dans la figure d'après pour montrer un peu comment ça fonctionne avec ces histoires de deux cercles noués 2 à 2. Voilà, ça c'est le faux trou avec la droite infinie qui permet de le transformer en vrai trou en réalité. Et juste après, on a les deux cercles, les deux faux trous enlacés l'un dans l'autre qui donnent une des mises en perspective possible du nœud à 4. Tous les nœuds à 4 borroméens sont réductibles à ce type de figure. L'on peut donc en déduire qu'à partir d'un empilement de 3 données, donc 1, 2, 3, il n'y a que 2 borroméens à 4, alors qu'il n'y a, quel que soit l'empilement de départ, qu'un seul à 3. Donc on a donc 2 nœuds à 4 par empilement donné 1, 2, 3. L'on voit bien qu'il en manque un, celui qui s'écrirait 1 plus 3 et 2 plus 4. Or l'empilement 1 plus 1, 2, 3 est impossible avec ce nœud. On peut pas, en partant de l'empilement 1, 2, 3, obtenir ce nœud 1 plus 3 et 2 plus 4. Voilà. Il est possible évidemment de construire avec les couleurs 1, 2, 3 ce fameux nœud, mais les rapports spatiaux 1, 2, 3 de haut en bas ne sont plus respectés. Donc, pour un empilement donné, il y a 2 nœuds à 4 et 2 seulement. Les trois nœuds borroméens à 4 impliquent que les empilements diffèrent. Bon. Quels sont les empilements qui intéressent Lacan? Au début de RSI, le 14 janvier 1975, Lacan construit le nœud à 4 freudien par rapport à l'époque à ce qu'il considère être le nœud à 3 lacanien. Voici comment il écrit le nœud freudien. Donc, on le voit avec la figure noir, rouge, bleu, hein, et avec le faux filage par le quatrième. Le réel est en dessous en bleu, en 3, donc le symbolique est en haut en noir, en 1, et l'imaginaire est au milieu en rouge, en 2. Le 4, la ligne noire plus fine, passe sous 3, le réel, sur 1, l'imaginaire, et sous le 2, le symbolique. Contrairement à la lettre à François Rouen, où le 4 passe sur le 2. Mais c'est équivalent, bon, enfin, faites-moi confiance, je ne vais pas refaire toute la démonstration, mais c'est équivalent, on retrouve quand même les mêmes solutions que le 2 passe dessous ou dessus le 4. Puis vient une mise à plat qui ne prend pas les mêmes correspondances de couleurs, hein, avec deux solutions possibles. La mise à plat montre deux quatrièmes verts, hein, les deux quatrièmes verts qui correspondent à ce nœud, à la jonction aux trois ronds d'un quatrième. Donc, là, on a deux solutions superposées. Hein, ce n'est pas un nœud à 5, ce sont deux nœuds à 4 montrés comme ça. Donc, pour le nœud freudien, nous avons symbolique égale rouge égale 1, imaginaire égale bleu égale 2, réel égale noir égale 4, égale 3 et quatrième en vert avec deux positions possibles comme dans la lettre à François Rouen. Et on a aussi une autre écriture du nœud à 4 avec deux droites infinies juste après. Et encore une autre dans l'espace, voilà les deux droites infinies, toujours nœud à 4. Et donc une dans l'espace aussi, armillaire, où on voit les quatre, avec le quatrième en rose là, qui noue les trois qui sont chacun dans un plan, dans des plans orthogonaux et indépendants. Les trois premiers étant dans des plans orthogonaux et indépendants. Pourquoi Lacan recourt-il au nœud à 4 à ce moment-là? Pour faire valoir que contrairement au nœud à 3 lacanien où le réel surmonte le symbolique en deux points, pour Freud c'est le symbolique qui surmonte le réel et que le réel, le symbolique et l'imaginaire ne sont noués que par le quatrième. Ce quatrième, c'est la réalité psychique qui fait cercle, faux trou avec le réel. Le quatrième se noue au réel dans cette configuration. Le quatrième rond freudien, tout au long du séminaire, Lacan le nommera complexe d'Oedipe, père nommant, nom du père au singulier et nom du père dans leur pluralité au pluriel. Donc. Et il maintiendra dans tous ses schémas à quatre le cercle qu'il fait avec le réel, c'est-à-dire l'empilement dit freudien. À la fin du séminaire RSI, le 13 mai 1975, Lacan met en question la chaîne, met en relation, pardon, la chaîne borroméenne 1, 2, 3, 4, hein, c'est ce que vous voyez. Alors, 1, 2, 3, 4 selon la succession des ronds dans cette chaîne et non selon leur empilement de haut en bas, là. Et les nominations, donc il les met en relation avec les nominations par un quatrième rond, de l'imaginaire avec l'inhibition, du symbolique avec le symptôme et du réel avec l'angoisse. Voilà, ça c'est ce qu'on voit là. Dans le petit schéma qui vient juste après, où on a donc 1, 2, 3, 4, qui s'échange deux à deux en regard. C'est-à-dire qu'en fait, le 1 se noue en faux trou, etc., avec le 2, là, et idem pour le 3 et le 4. Hein. 1 et 2 mis en regard, et le 3 et 4 se nouent. Donc, comme dans la lettre à François Rouen, deux cercles noués, 2 à 2, 1 plus 2 et 3 plus 4. Hein, et 1 et 2 d'un côté, 3 et 4 de l'autre sont interchangeables. Voilà. Donc, on a le nommé, hein, puisque c'est quelque chose qui... L'inhibition, le symptôme et l'angoisse nomment respectivement l'imaginaire, le symbolique et le réel. C'est ce qu'on voit là. Donc, les trois nœuds à quatre correspondent à trois nominations différentes, donc respectivement l'imaginaire par l'inhibition, la nomination du symbolique par le symptôme et le réel par l'angoisse. C'est ce que je viens de dire. Dans le premier nouage, l'imaginaire fait cercle en faux trou avec l'inhibition, le réel et le symbolique faisant un cercle de même qui se noue au premier. Nous avons là, par exemple, l'inhibition que la pensée trouve dans la bord des nœuds. C'est un exemple humoristique de Lacan pour éclairer un peu, rendre vivant ce nœud, l'inhibition que la pensée trouve dans la bord des nœuds. Bon. Alors, il en est de même pour le symbolique avec le symptôme, avec le cercle du réel et de l'imaginaire. Donc, on a nomination du symbolique par le symptôme. Et donc, nouage 2 à 2, donc... NS et S, et R plus I de l'autre côté. Et donc, troisième nœud que Lacan ne fait pas, n'écrit pas, le réel vient se nouer avec l'angoisse pour faire cercle, qui se noue au cercle du symbolique et de l'imaginaire. Et nous retrouvons là le nœud à quatre freudien. L'angoisse nomme donc le réel freudien NR dans ce nœud. Oui, curieux de trouver que donc c'est l'angoisse, le quatrième, dans cette déclinaison, pour ce qui en est du nœud à quatre freudien. Enfin, ça va, à mon avis, avec au moins l'angoisse de castration corrélée au complexe d'Œdipe, par exemple. De quelle nomination s'agit-il dans les deux épisodes de la Bible, celui créationniste de Fiat Lux, où du réel surgit du symbolique, et celui où Dieu nomme les espèces? Laquelle nomination relève-t-elle de la nomination du réel et laquelle relève-t-elle de la nomination du symbolique? Laquelle est-elle celle du nom du Père? C'est sur cette interrogation que Lacan conclut RSI. Alors, remarquons qu'il a rapproché le quaterme du nœud à quatre freudien du Père nommant auparavant. Et effectivement, c'est l'image qu'emploie Freud dans son hommage à Charcot, où il le décrit nommant le réel des entités cliniques qui défileraient devant lui. Dans l'empilement freudien, où le symbolique surmonte le réel, nous trouvons bien l'idée de la nomination d'un réel déjà là. Alors que dans le fiat lux de la parole créatrice, c'est bien du symbolique déjà là que surgit le réel. Donc, symbolique en dessous. Hein. Et dans le nœud du symptôme, qui ouvre le séminaire suivant, le symptôme, c'est le symbolique qui est placé à la base de l'empilement, comme si cela lui donnait une antériorité logique sur le réel, le symbolique de Fiat Lux. Donc, voilà, hein, dans ce nœud qui ouvre le séminaire, le symptôme, on voit que le symbolique est en bas, le réel au milieu, l'imaginaire en haut, si je ne me trompe. Et ce qui peut se lire comme une antériorité logique du symbolique sur le réel, telle qu'elle apparaît dans Fiat Lux. Le réel vient en position intermédiaire et l'imaginaire vient en haut de l'empilement. Le quatrième terme devient sigma, le symptôme, et fait cercle avec le symbolique là, à la place du NS, de la nomination du symbolique de la fin de RSI, corroborant l'idée que c'était bien lui le nom du père créationniste, celui de Fiat Lux. S'il y a deux nœuds à quatre par empilement de RSI, quel est l'autre nœud à quatre avec cet empilement lacanien? Il s'agit du nœud de l'inhibition où le quart-terme fait faux trou avec l'imaginaire. Bon, je vous passe la démonstration qui s'appuie sur ce qu'on a déjà dit avant. Comment ? Voilà. Bon. Voilà. Donc, d'un côté, on a donc ce nœud du symptôme, mais avec le même empilement, on a aussi le nœud où le quatrième terme est l'inhibition. Animons tout cela d'une hypothèse clinique. Prenons l'obsessionnel de la direction de la cure. Puisque nous avons commencé avec les bandes de François Rouen, poursuivons avec la contrebande de cet analysant de Lacan. En fin de cure, il se retrouve impuissant avec sa maîtresse et il lui propose de coucher avec un autre homme pour voir. La même nuit, elle fait un rêve où elle a un phallus, écrit Lacan, il écrit un phallus et non un pénis. Elle en sent la forme sous ses vêtements, évoquant le phallus sous le voile dans les mystères, ce qui ne l'empêche pas d'avoir aussi un vagin, ni surtout de désirer que ce phallus y vienne. À l'audition de ce rêve, l'homme retrouve sur le champ ses moyens et il le lui démontre brillamment. L'interprétation de Lacan porte sur les effets de ce rêve sur l'analysant et sur le signifiant phallique qui surgit là. Mais tout d'abord, quel est le tour de Bonneteau, comme l'écrit Lacan, que l'analysant fomentait? Rappelons que le Bonneteau se joue avec trois cartes dont la face est cachée, les deux rois noirs et la dame de cœur, et trois places où le bonimenteur fait circuler les cartes rapidement de manière à leurrer le chaland qui doit trouver où est la dame de cœur. À cette occasion, quelquefois, le bonimenteur accompagne ses gestes de passe-passe d'une ritournelle. Tu la vois, tu la vois, tu ne la vois plus. Bon. L'analysant de même attire l'attention de l'analyste et de sa maîtresse du côté du pénis comme organe, comme un autre, imaginaire. Il nous leurrerait d'une sienne ménopause, écrit Lacan, aussi avec cette espèce d'organe donc tout à fait organique, du coup. somatique. Donc, il tente de nous attirer aussi du côté de l'axe imaginaire des deux rois noirs, du double, de l'homosexualité, de son impuissance qui signerait l'impuissance de l'analyste, pour détourner l'attention des conditions impossibles de son désir, qui est de difficulté, désir de difficulté. Comme l'écrit Lacan, c'est-à-dire que son désir est fait à consistance de difficulté. La difficulté où il se trouve de désirer sans détruire le désir de l'autre et par là son propre désir. La condition de ce désir est la marque même, je cite Lacan, dont il le trouve gâté à l'origine. C'est la condition du désir, cette marque du gâtage. Donc, gâté à l'origine par la faute de structure du père, par la transmission du phallus qui s'est faite avec quelque chose de pas régulier sur le titre, en contrebande, comme le dit Lacan, avec toutes les résonances humoristiques par rapport à Bandé, bien sûr, mais aussi avec la référence à la bande, au ruban de Moebius et à sa demi-torsion que Lacan donnera plus tard dans l'étourdi. Par ce tour, l'analysant tente de détourner l'attention de la dame de cœur qui apparaît dans le récit, détourner l'attention de la dame de cœur, enfin bref, qu'on ne regarde pas la dame de cœur, bon, qui apparaît dans le récit du rêve et que souligne Lacan dans son interprétation. La dame de cœur, c'est le fait que le phallus est insignifiant. Le récit du rêve, construit comme un mythe, met en équation sous forme signifiante une problématique insoluble et il lui fournit le signifiant impossible comme solution. C'est ce qu'écrit Lacan dans son hommage à Lévi-Strauss, c'est-à-dire le signifiant phallique. Et Lacan de conclure. La contrebande, mode de la grâce singulier que de ne figurer que du déni de la nature. Alors, déni de la nature, l'impuissance ou la supposée nature du pénis est mise à mal. Une faveur s'y cache, dans cette histoire, qui chez notre sujet fait toujours antichambre. C'est à la congédiée qu'il la laissera entrer un jour. Cette faveur, ce ruban que la dame noue à la lance de son chevalier, il doit la congédier en tant qu'inhibition. Hein? Pour que le récit du rêve débute un nouveau nouage où la dame pourrait se retrouver symptôme dans la fin de cette analyse qui se profile. En termes borroméens, nous pourrions dire que le nouage à quatre, par la nomination de l'imaginaire comme une inhibition, a été rompu par une soustraction du sens imaginaire qui faisait sa consistance. Rompu par le côté logique de l'absurde du rêve, mettant en évidence le signifiant phallique comme signifiant de l'impossible résolutoire. Et qu'un nouveau nuage à quatre, avec le même empilement lacanien, IRS, en partant d'en haut et en allant vers le bas, IRS donc, où le signifiant devance logiquement le réel impossible, signifiant qui est en bas donc, sous le réel, s'annonce avec pour quart terme le symptôme, la dame de cœur. Voilà, ce quatrième nouage s'annonce avec pour quart terme le symptôme, la dame de cœur. Voilà, je vous remercie.